le concept de handicap émerge dès le XIXe siècle, au travers des discours médicaux pour qualifier les personnes vivant avec une incapacité. Cette terminologie est produite au sein de sociétés qui se caractérisent par une industrialisation croissante, promouvant le travail des ouvrières et le labeur domestique gratuit. Elle capitalise aussi sur l'hyperperformance des corps et des psychés. Les récits médicaux ont peu à peu défini ce à quoi les corps et les esprits en bonne santé doivent ressembler, en édictant notamment un seuil factice, temps mouvant et parfois intermittent de la validité ou de la capacité. Dès lors, toute personne transgressant ce seuil se retrouve stigmatisée, à l'instar donc des personnes handicapées, malades ou malades chroniques. Ces normes validistes, similaires à celles de race ou de genre, qui s'exercent dans les sociétés discriminantes, participent à la minorisation de nombre de diversités, inhérentes aux incapacités, aux neuroatypies ou encore aux psychoatypies, etc. Depuis des siècles, l'histoire des représentations médicales et sociales occidentales du handicap est marquée par de vives violences, législatives, lois liberticides envers les personnes handicapées, souvent paternalistes, ségrégative, instauration d'institutions médicalisées et ou spécialisées qui isolent les personnes handicapées, ou encore régulatrice, pratique de contrôle des naissances et atteinte des droits à la parentalité. À cela se sont additionnées les violences représentationnelles, avec la tradition des freakshows en Europe et en Amérique du Nord, qui ont exposé avec sensationnalisme dans les foires populaires les corps marginalisés, des personnes malades, noirs, inter, trans, etc. Ou encore celle des Ugly Laws, qui aux États-Unis ont longtemps tenu à l'écart des centres-villes et sous peine d'amende les corps considérés comme laids ou difformes. Ces lois visaient principalement les corps incapacités et entendaient de fait empêcher la participation sociale des personnes handicapées. Ces violences historiques et leurs effets d'ostracisation ont peu à peu conduit à un processus de déshumanisation des personnes incapacitées, dépeintes depuis des siècles comme des sous-humains, en opposition aux personnes capacitées ou valides, considérées de fait comme des êtres supérieurs. Elles ont favorisé la création d'une mythologie monstrueuse, rattachée aux seuls discours médicaux, ayant longtemps participé à légitimer les rapports de domination envers les personnes incapacitées. Note de l'autrice. J'en discute un peu plus longuement dans l'essai « Handicap et art, en finir avec une perpétuation de la violence », publié dans la revue Era Novum en 2021. Fin de note. Zig Blanquer déclarait en 2008 « Mon corps monstrueux est mon corps préféré ». Note des auditorices. Dans « Zig Blanquer, je suis un légume bio heureux, merci », repris dans ce livre. Fin de note. Nous permettant d'y lire a posteriori l'importance que la resignification du terme « monstre » a eue au sein des cultures handicapées. Longtemps silenciées au profit des discours médicaux et fonctionnels, ces cultures sont inhérentes à l'expérience de vivre avec une incapacité, au sein de sociétés qui handicapent. Elles se sont fait reconnaître par une résistance politique aux cultures validistes, qui sont pensées exclusivement par et pour les personnes capacitées. Par ailleurs, dans les contextes anglo-saxons et dans le sillage des mouvements militants handicapés, le terme « CRIP » est l'objet d'une réappropriation fière, afin de faire valoir des formes d'identité handicapée émancipées des discours normatifs. Dérivé de l'insulte « cripple », estropié en français, qui fait d'ailleurs une référence phonétique au terme de monstre « CRIP ». Note de l'autrice, telle que le fait remarquer Charlotte Puiseux dans « Cripper la théorie CRIP ». Fin de note. Il devient alors un moyen de valoriser positivement l'expérience handicapée. En s'inspirant des théories queer, la conceptualisation du CRIP consent tout en déconstruisant les normes à remettre au cœur des discours les corps et les récits qui en ont été culturellement et historiquement écartés. Comme il l'énonce aux côtés de Pierre Dufour en 2011, Zig Blanquer souhaite faire histoire par son œuvre littéraire, plutôt que de se voir figé dans ses historiques du handicap qui font abstraction des apports culturels et politiques des personnes handicapées. Ces 20 dernières années, il a participé à la déconstruction des discours normatifs et a contribué au rayonnement de cultures opprimées, grâce, comme il l'écrit, à une politisation des vécus minorisés. Via un militantisme intersectionnel remarquable et par la place qu'il laisse à l'expertise de l'expérience, Zyk Blanquer a progressivement élaboré une pensée des plus pertinentes, qui représente aujourd'hui un précieux outil pour analyser les mécanismes discriminatoires relatifs au handicap. De fait, il a contribué à pallier ce qu'il dénonçait en 2011 lorsqu'il écrivait « Nous ne savons pas parler de nos ordinaires, les mots nous manquent ». Note des éditorices. Dans l'article de Zyk Blanquer et Pierre Dufour, 2011, « Les noces du courage et du handicap », repris dans ce livre. Fin de note. En pensant systématiquement l'accessibilité de ces textes, aux divers formats et souvent publiés en ligne, ainsi qu'en engageant de nombreuses collaborations, il est le premier qui propose, en 2004, dans la brochure d'un infokiosque, Étale proposant la sélection et la diffusion alternative de textes engagés vendus à prix modique, le terme « validisme ». Adaptation française « d'ableism ». Les thématiques abordées par Zyk Blanquer dans cette présente édition sont multiples et traitent autant des sexualités que de l'institutionnalisation, des accessibilités et de la mixité. Via une veille en ligne et hors ligne de ce qui s'est créé de plus novateur dans le domaine de la réflexion autour du handicap, en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, en Europe du Nord, etc., Zyk Blanquer a développé une expertise qui, dans la veine d'une tradition des militants et militantes françaises du journal Handicapé Méchant, inscrit le handicap à l'intersection d'autres discriminations, permettant de l'interpréter comme faisant partie d'un système global d'oppression qui participe au refus de rayonnement des diversités sexuelles, de genre, de race, de classe, d'incapacité, de neuro- et psycho-atypie, etc. Avec Zyk Blanquer, nous nous sommes d'abord rencontrés en ligne en 2015 par l'intermédiaire du blog que je venais de créer afin de rendre accessibles en français les textes qui me semblaient majeurs dans le domaine des Disability Studies et des Disability Arts. De retour dans ma ville natale à l'issue de mes études à Rennes et après un passage de quelques mois à Montréal, à la découverte du centre artistique autogéré et féministe de la Central Gallery Powerhouse, j'élaborais alors les premières bases de mes réflexions. Plusieurs éléments ont donc participé à construire mon approche vis-à-vis du handicap. D'abord, et sans doute, cette ville dont je suis originaire, Douarnenez, Finistère, que j'ai toujours connue, et que ma famille m'a toujours racontée culturellement et politiquement engagée. Puis, très certainement aussi, le fait d'avoir grandi avec des parents malades, handicapés, ainsi que ma propre neuroatypie, surtout lorsqu'elle est vécue dans les milieux intellectuels et universitaires. Et enfin, ma formation féministe dans les arts contemporains et les pratiques curatoriales. Toutefois, ma compréhension et mon analyse des productions artistiques handicapées et des enjeux rencontrés se sont aussi forgées et perfectionnées grâce aux rencontres régulières que nous avons programmées avec Zyk Blanquer, à quasiment chacun de mes passages à Nantes entre 2015 et 2017. Cette année-là, notre collaboration s'est inscrite et diffusée publiquement via la production de l'exposition Autonomous Spaces, qui présentait pour la première fois en France les œuvres d'artistes contemporains issus des mouvements des Disability Crip Arts, Atelier du Vent, Rennes. Aujourd'hui, alors que je poursuis depuis septembre 2019 ma thèse à l'Université du Québec à Montréal, au sujet des productions artistiques et militantes handicapées engagées, ces échanges demeurent omniprésents. Alors, quand Zyk Blanquer et les éditions Monstrographe m'ont invité à rédiger cette préface, j'ai répondu avec enthousiasme et empressement, tant il me semble primordial et impératif que ce livre voie enfin le jour et que vous puissiez tous y lire la contribution de Zyk Blanquer, pionnière dans la réflexion francophone sur le handicap. Sarah Eussaf, doctorante en communication à l'UQAM. Sa recherche-création porte sur les premiers mouvements militants handicapés des années 1970-1980, les pratiques artistiques handicapées actuelles et le commissariat d'exposition accessible.